peut pas tout dire, vous savez, en tous les cas. En tous les cas, on ne peut pas tout dire. Voilà, on va encore dire une petite, un petit « Je vous salue, Marie ». Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, ce matin, j'ai essayé de vous évoquer les gémissements de l'esprit. Cette espèce de désir en nous. D'abord, nous avons un désir naturel de Dieu qui nous fait chercher, Et quand on l'a trouvé, quand le doigt de Dieu nous a touchés par l'esprit, alors s'éveille en nous ce désir de le retrouver, d'être si possible tout le temps avec lui, de demeurer avec lui. Et ça, c'est un deuxième désir que cette, je dirais, cette union d'amour avec le Seigneur soit vraiment accomplie. Et ça, c'est ce qu'un Paul vise quand il dit les gémissements ineffables de l'esprit. Vous savez que dans le renouveau charismatique, on chante en langue. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, ça. Je me rappelle, vous savez, ce chant en langue, c'est dans la prière, comme ça, on se met en prière, on chante, on loue le Seigneur, et puis à un certain moment, on sait pourquoi toute l'assemblée commence à chanter, comme ça, sans parole. La glossolalie. C'était un peu drôle. La première fois que j'ai entendu ça, c'était chez le cardinal Sunens. Je me dis, mais où est-ce que je suis tombé ici? Oui, 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 c'est bien le cardinal qui est ici. Ça fait très drôle. Et cependant, c'est très beau, c'est très mélodieux. À un certain moment, la prière devient telle que on dépasse les mots et c'est vraiment le jaillissement du cœur qui chante, hein, au-delà des mots. Alors certains ont dit, oh mais écoutez, ces gémissements ineffables de l'esprit, ça doit être le chant en langue des charismatiques. Je ne crois pas. Je crois que c'est plus fondamental que ça, c'est ce désir profond que moi j'aime appeler le désir mystique. Je veux dire mystique, c'est un grand mot, le mystique, hein. Mais le désir mystique. Quand vous lisez les mystiques, comme Saint Jean de la Croix, comme Thérèse d'Avila ou d'autres, Vous sentez ce désir de Dieu. Ouh, c'est incroyable. Vous savez, alors, ils reprennent le cantique des cantiques. Hein. Je suis sorti. Il a posé sur moi son regard. Mon cœur est brûlé. Il a disparu. Et je cherche pour le retrouver. Le désir mystique. Saint Thérèse d'Avila, comme ça, écrit tout un poème qui exprime ce désir de Dieu en disant, chaque strophe se termine en disant, je me meurs de ne pas mourir, ce désir de Dieu. Donc ça, c'était pour ce matin. Alors, je voudrais continuer et je voudrais encore, pour passer à la suite, je voudrais vous lire encore une conversion ou évoquer une conversion subite que peut-être vous connaissez. C'est celle de Claudel. C'était un jour de Noël, en 1886, Claude n'était pas croyant, et il commençait à écrire. Un écrivain. Et ce jour de Noël, il dit, je vais aller à la messe à Notre-Dame de Paris. Non pas par foi ou par croyance, mais peut-être que ça me donnera un élan pour écrire. Et donc, jour de Noël, il va à Notre-Dame de Paris, il assiste à la messe, la grande messe, puis rentre chez lui plutôt déçu. Bon. Ça n'a pas été inspirant. Et l'après-midi, bon, il repasse là-bas et il va aux vêpres qui sont chantées dans la même cathédrale Notre-Dame de Paris. Et je vous lis ce qu'il a écrit. Le 25 décembre de 86, donc, je vais à Notre-Dame de Paris pour y suivre les offices de Noël, espérant que ceux-ci me donneront un excitant pour écrire. J'assistais avec un plaisir médiocre à la grand-messe et, n'ayant rien de mieux à faire, je revins aux vêpres. J'étais moi-même debout dans la foule, près du deuxième pilier, à l'entrée du chœur, à droite du côté de la sacristie. Et c'est alors que se produisit l'événement qui domine toute ma vie. En un instant, mon cœur fut touché et je crus. Je crus d'une telle force d'adhésion, d'un tel mouvement de tout mon être, d'une conviction si puissante, d'une telle certitude ne laissant place à aucune espèce de doute, que depuis, tous les livres, tous les raisonnements, tous les hasards d'une vie agitée n'ont pu ébranler ma foi, ni à vrai dire, la toucher. Bon, hein? C'est son témoignage à lui. Et alors, il va essayer de se rappeler ce qu'il a vécu à ce moment-là. Pour autant qu'on puisse le décrire. Hein. En essayant, comme je l'ai souvent fait, de reconstituer les minutes qui suivirent cet instant extraordinaire, je retrouve les éléments suivants, qui cependant ne formaient qu'un seul éclair. Vient en lui comme ils sont heureux les gens qui croient. Voilà, ça monte en lui. Si c'était vrai, pourtant, c'est vrai. Dieu existe, il est là. C'est quelqu'un. C'est un être aussi personnel que moi. Ça s'impose à lui. il m'aime. Il m'aime. Il m'appelle. Les larmes et les sanglots étaient venus dans mes larmes. Formidable. Voilà ce qu'il a vécu. Comme ils ont la chance, ceux qui croient comme ça. Et si c'était vrai, c'est vrai. Donc, vous voyez, l'Esprit Saint vient le toucher. D'abord en donnant envie. Ah, comme ils ont de la chance, ceux qui croient. Et puis, par la révélation. Mais Dieu est. C'est évident. Comment est-ce que j'ai pu douter de ça? Et il est quelqu'un de personnel, aussi personnel que moi. Et il m'aime. Et il est touché par cet amour de Dieu et commence à pleurer d'émotion. Magnifique, hein? On a là tout ce qui est la foi. Le désir, la révélation, et devant la révélation, je crois. Je vous lis ce récit de Paul Claudel, qu'il a écrit lui-même. Hein. Parce que tout ce que je vous ai raconté ce matin, ce désir, cette touche de Dieu qui nous touche par son doigt qui est l'Esprit Saint, cette touche qui nous inonde, qui nous remplit, qui nous comble, on sent que c'est ça qui, seul qui peut combler le cœur humain. Tout ça, c'est l'amour. L'amour. Nous sommes faits par amour et nous sommes faits pour l'amour. Un amour total, un amour absolu. Et il y a une loi mystérieuse entre la vie et l'amour. Nous avons été créés par Dieu, par amour et dans l'amour, et pour l'amour. Et ça, c'est une loi. Il y a un lien mystérieux entre l'être, la vie et l'amour. Et d'ailleurs, au niveau humain, chaque être humain est conçu et engendré dans l'étreinte d'amour de l'homme et de la femme. Et ça nous fait penser à ce que, en fait, nous sommes tous créés par l'amour. La loi humaine est comme ça. Un être humain est engendré dans une étreinte d'amour entre l'homme et la femme. Aussi, humainement, nous venons de l'amour. Et nous voyons bien que un enfant, un être humain, qui n'est pas beaucoup aimé, il ne sera pas aussi vivant qu'un autre. Il ne sera pas aussi épanoui qu'un autre. C'est d'ailleurs dramatique. C'est-à-dire le lien qu'il y a entre l'amour et la vie. Et maintenant je viens au thème qui est annoncé pour la première conférence. Seul l'amour est digne de foi. En fait, c'est le titre d'un livre. C'est un petit livre qu'a écrit le grand théologien qui est maintenant mort, Hans Urs von Balthasar. Malheureusement, il écrit en allemand et il est un peu compliqué à lire, mais il dit des choses magnifiques. Et dans ce livre, il dit quelque chose de magnifique. Je vais essayer de vous l'évoquer. Il dit, voilà, comme je viens de vous l'évoquer, l'être humain est engendré dans une étreinte d'amour entre l'homme et la femme. Et puis la femme porte en elle ce petit être qui commence à se développer. Il porte donc cet être dans son corps, et son corps est la première protection de cet enfant. Et cette mère est la gardienne de la vie. Et alors, après durant 9 mois, vient la naissance. Et donc ce petit être va commencer une existence où son corps est séparé du corps de la mère. Il va commencer une vie plus autonome. Et on se trouve à ce moment-là devant un petit bébé. Ils sont tous charmants, ces petits bébés. Quand on est devant un petit bébé, qu'est-ce qu'on fait? On a envie de sourire. On sourit. Et la maman sourit à ce petit bébé. Et elle sourit. Et ce petit bébé ne comprend rien. Parce que psychologiquement, ce bébé est encore... psychologiquement, pas encore séparé de la mère. Donc il n'y a pas encore de... voilà. Donc l'enfant ne comprend pas. Parce que c'est un sourire. Et on sourit, la maman continue à sourire, comme ça, d'instinct. Et au fond, ce sourire, c'est la projection, l'extériorisation de l'amour de la maman pour ce petit enfant. Et cet enfant ne comprend pas. Et vous avez peut-être remarqué, après avoir souri comme ça, après avoir souri comme ça, on voit l'enfant qui, quand on sourit, il est comme éveillé. Ah, il réagit. Et l'enfant continue à sourire. L'enfant continue à sourire. Et un beau jour, oh merveille, voilà que se dessine sur ce petit visage d'enfant un sourire en réponse. Quelque chose de magnifique. Eh bien, Hans Urs von Balthasar dit, ça c'est l'image de notre vie avec Dieu. Dieu nous sourit. Dieu nous sourit. Dieu nous sourit. Il projette sur nous son amour. Et nous, on ne s'occupe pas de ça. On s'occupe d'autre chose. On ne comprend pas tout ça. On ne nous intéresse pas. Et continue à sourire. continuer à sourire, attendant qu'un jour, nous sourions en retour. Et voyez, ce petit bébé peut un jour sourire à sa maman parce qu'il a été irradié par le sourire de sa maman et l'affection de sa maman. Et cet amour est entré dans son cœur, a touché son cœur, a transformé son cœur et a suscité dans son cœur une réponse d'amour, et il sourit à sa maman. Bien, notre vie chrétienne, c'est ça. C'est la même chose. Dieu nous sourit, et il attend, avec une patience admirable, notre sourire en réponse. Quand je vous parle du deuxième thème de conférence, le thème de la deuxième conférence, la transformation de mon cœur, comment est-ce qu'il va être transformé? Quand je vais laisser descendre dans mon cœur l'amour que Dieu a pour moi. Quand je vais m'ouvrir à cet amour, quand je vais le laisser descendre dans mon cœur, quand je vais permettre à cet amour de venir dans mon cœur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va transformer mon cœur. Il va guérir mon cœur. Et il va susciter dans mon cœur l'amour envers lui et envers les autres. C'est la seule chose que j'ai retenue de ce petit livre. Seul l'amour est digne de foi. Mais je trouve que ça vaut la peine. Magnifique comparaison. Image de ce que Dieu vit avec nous, que nous sommes invités à vivre avec lui. Alors, au fond, frères et sœurs, au fond, de notre foi chrétienne. Quel est le fond? Le fond de notre foi chrétienne, c'est que nous sommes aimés par le Dieu éternel et tout-puissant. Et la première chose que nous avons à croire, c'est ça. La première chose que nous avons à faire comme chrétiens, c'est pas d'abord d'aimer, c'est d'abord de se laisser aimer. D'accueillir l'amour. Et vous savez que l'amour, finalement Dieu, c'est une personne, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit d'amour. C'est lui qui vient remplir nos cœurs et le transformer, hein, c'est sûr. Et alors vous comprenez que dans l'histoire de la spiritualité, surtout à partir du Moyen-Âge, chez les cisterciens, on a beaucoup insisté, et on a toujours insisté dans l'Église, sur l'importance de contempler Jésus dans sa passion. Parce que là, Jésus manifeste quel est l'amour de Dieu pour chacun de nous. Il a employé le moyen le plus fort pour essayer de nous faire comprendre que nous sommes aimés, parce qu'il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et il a donné sa vie pour chacun de nous. Et donc, dans l'Église, c'est très important de regarder Jésus dans sa passion. Et alors on a développé, historiquement, des dévotions à chacune des blessures de Jésus. La blessure de l'épaule écrasée par le poids de la croix. La blessure infligé par cette couronne d'épines. Évidemment, les blessures des mains et des pieds transpercées par les clous. Et donc, il s'est développé comme ça dans l'histoire des dévotions simples, etc. Jusqu'au jour où il y a un cistercien qui a dit, mais plutôt que de regarder chacune des plaies, si vous voulez vraiment comprendre l'amour de Jésus à travers sa passion, regardez son cœur. Regardez son cœur. Là, vous comprendrez tout. Cœur transpercé. C'est vrai que le cœur de la passion, c'est la passion du cœur de Jésus. Parce que vous voyez, vous avez peut-être expérimenté ça. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on est très sensible et très vulnérable. Et quand alors on est bafoué dans son amour, ça fait très très mal. Ça, on voit. Quand une jeune fille a été trompée par un garçon qu'elle aimait beaucoup, elle souffre terriblement, elle a envie de se barricader pour ne plus jamais ouvrir son cœur. Ça fait trop mal. Il n'y avait pas de cœur plus sensible que celui de Jésus. Donc, comment est-ce que je vais être transformé moi-même dans mon cœur? C'est en regardant cet amour du Seigneur qui émane de son cœur. Pour moi. Et alors grandit dans notre cœur un sentiment très délicat et très beau Et encore, parce que vous êtes maintenant bombardé avec tous des témoignages de gens convertis. Hein. Mais vous connaissez sans doute ce livre, Dieu existe, je l'ai rencontré, de Fossard. Quand il a été donc touché par la grâce, il n'a plus qu'une crainte. C'est de blesser la tendresse de celui qui s'est révélé à lui. La crainte de le blesser, de blesser la tendresse de celui qui s'est révélé à lui. Oui. Et quand Jésus est mort sur la croix, il ne faut pas croire qu'il nous a aimés une fois il y a 2000 ans. Hein. C'est toujours le même amour qui nous accompagne maintenant. Il est présent aujourd'hui près de chacun de nous, ressuscité. Et son amour est toujours avec nous. Et une fois qu'on a découvert ça, et une fois que on est entré là-dedans, dans cette relation d'amour avec le Seigneur, la vie devient magnifique. C'est toute autre chose, hein. Savoir aimer, pouvoir dire à Dieu, Abba Père, comme dit l'Esprit. Saint Paul dit ça dans le texte, un peu plus loin que nous avons évoqué au chapitre 8 de Romains. Nous pouvons vivre dans la confiance, nous sommes accompagnés d'un amour, nous pouvons nous appuyer là-dessus. Et ce qui est étonnant, c'est que Jésus est sensible à notre réponse d'amour. Incroyable, n'est-ce pas? Il nous attend. Il espère notre sourire d'amour en retour. Je me rappelle un jour, il y avait une dame. Elle allait tous les jours à la messe. C'est une personne très bien, hein, très dévouée. Elle tenait beaucoup à la messe tous les jours. Et elle part faire un petit voyage. Je ne sais dans quel pays c'était, dans quelle ville. En Europe de l'Est. Et après mon voyage, je la revois et elle me dit, oh, c'était magnifique. Pas loin de l'hôtel, il y avait une église et je pouvais aller chaque jour à communion. Et je crois que j'ai été inspiré par l'Esprit Saint parce que je n'avais pas encore. Je lui ai dit, mais madame, vous étiez contente d'aller communier. Mais Dieu était content que vous veniez. Il a arrangé ça parce que lui aussi, il était content de venir chez vous. Oui. Commencez à être attentif au désir de Dieu. De Dieu. C'est comme ça que Jésus a vécu toute sa vie. Quand on dit dans la Bible, je fais toujours la volonté de mon Père, le mot volonté, pour nous c'est dur. Il faudrait traduire, je fais toujours ce que mon Père espère de moi, ce qu'il attend de moi, ce que je voudrais, ce qu'il voudrait que je fasse. Sur le chemin de l'amour avec Dieu. Et voilà, notre vie c'est ça. Savoir que nous sommes bien aimés de Dieu, nous sommes invités à entrer avec lui dans une espèce d'amitié. La Bible dit une alliance d'amour. Et tout le chemin spirituel, c'est aller toujours plus loin dans cet amour, parce que l'amour, une fois que il s'arrête, il meurt. Si à un certain moment dans l'amour, on dit maintenant je ne vais pas plus loin, c'est mort. L'amour ne peut vivre que s'il va toujours plus loin. C'est la loi de l'amour. Et le sommet de l'amour, évidemment, c'est l'union, la communion, être un de cœur et d'esprit. Comme le Fils de Dieu est un avec son Père dans l'esprit, nous sommes invités à être un dans le Fils par l'esprit. Et voilà, je vous souhaite bonne route sur ce chemin. Voilà.
Merci beaucoup. Là, vous avez dit, vous nous appelez l'importance de la contemplation.
Oui.
Dans le livre, l'appel à l'amour, Jésus dit un moment, vous vous rappelez certainement, puisque vous connaissez bien, contemple mon cœur. Et tu apprendras de lui à aimer. Cette phrase est tout de suite dans ma tête. Voilà.
Ben voilà.
C'est une de parole. Bon.
Que vous avez dit. Ben voilà.
Bien, nous remercions beaucoup le Père.
Vous en prie.
Qui nous a introduit dans le cœur de la Trinité que nous allons fêter dimanche.
Absolument, demain.
Voilà.
Merci Seigneur. Hein. Merci Seigneur. Mais voilà, c'est bien gentil. Faites ça, c'est une bonne idée.
Une bonne... Vous nous prenez dans votre prière.
Merci,
merci beaucoup.
Merci.
Alors, nous vous invitons. Peut-être que vous pourriez. Vous ne pouvez pas nous dire deux mots de votre mouvement marial.
Oui.
C'est possible.
Oui, je peux vous dire deux mots.
Oui, mais ça, quand même.